L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
L'émission des pilleurs de son.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Quelle farce. Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes?
Sur Radio Campus, un lundi sur deux, 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Bonsoir. Pour commencer cette émission, Zabzalab vous invite, jeudi prochain, à venir pour un débat, discussion autour de l'usage policier et judiciaire de l'ADN. Pourquoi et comment refuser de filer notre ADN aux flics lorsqu'ils veulent notre précieuse salive? Ça se passera au Chat Crevé, jeudi à 19h. Le Chat Crevé, c'est à Fives, au 49 rue de Bellevue. Et ce soir, dans le cadre d'une série d'émissions sur le travail, Zabzalab vous propose une émission spéciale sur les travailleuses du sexe.
Grosse pute.
Fils de pute.
Pute vierge.
Sale pute.
La pute de ses morts.
Putain.
Putain, pute borgne.
Sa mère la pute.
Pas très sympa pour les putes tout ça. Mais bon, faut dire que le mot pute, il claque bien. J'aime la sonorité du mot pute. D'ailleurs, j'ai toujours été attiré par les putes. Une certaine fascination pour ces filles méprisées des bonnes gens, pour leur façon de se saper, leur manière d'interpeller le quidam, leur déhancher renversant, aidé par des talons aiguilles qui taquinent le bitume et une gouaille qui déride les blasés. Avec les putains, le rapport au corps est décomplexé et l'asphalte arpenté fièrement, de quoi choquer des bourgeois égarés. Y a pas à dire, une rue à tapin, ça a de la gueule. Vous êtes-vous déjà engouffré, depuis la Canebière, dans la rue Curiole, étroite et pentue? Ah, quel tableau que ce rencard de la prostitution marseillaise, quand en fin d'après-midi, par une belle journée d'automne, le soleil perché sur la plaine vous éblouit de front et tamise les filles et les traves qui sont là, paisibles, le boule rivé sur leurs chaises ou à même les marches de leur entrée, avec leurs nibards gonflés à bloc et leur décolleté qui t'adresse un sourire sans équivoque. Même bien raide, la montée de curiole, ça se fait peinard, au rythme des invitations et des mots doux. Il y a comme des conventions sociales transgressées, comme un petit air de désordre là-dedans. Mais tout ça ne nous fera pas oublier les filles, nombreuses, qui sont contraintes et forcées de se prostituer. Ça ne nous fera pas oublier non plus que la sexualité, comme toujours plus d'aspects de notre vie, est contrôlée par le pouvoir et l'ordre moral. Que la prostitution est pensée pour les hommes et que les filles, du moins les pauvres, n'ont pas d'accès équivalent aux services sexuels. Qu'enfin, la prostitution reste un rapport marchand et un taf, c'est-à-dire un non-choix dicté par la nécessité économique. Alors pour mieux appréhender ce sujet délicat et tortueux, on vous propose un montage sonore tiré du documentaire « Les travailleuses du sexe » de Jean-Michel Carré, qui donne la parole à des putes qui refusent le rôle de victime. Lucides, elles savent que la marchandisation des corps dépasse très largement leur seule profession, que là où il y a du travail, il y a de l'exploitation. Elles sont fières d'être putes sans être soumises, et en savent un rayon sur la misère affective et sexuelle. Indépendantes, elles préfèrent vendre leur charme pour du pognon plutôt que leur âme à un patron. À ces interviews viennent se greffer quelques passages lus, tirés de l'excellent King Kong Theory de Virginie Despentes.
Si vous êtes venues si nombreuses répondant à notre appel, c'est bien que vous sentez que l'ancien temps est révolu. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française. Plus de clandestinité, plus de ghetto. Il faut sortir au grand jour. Nous avons été les premières à descendre dans la rue depuis 2000 ans. Les propriétaires du trottoir, c'est nous. Que seraient ces messieurs sans nous? Réponse, rien! Rien! Ils n'ont aucun...
continue à m'interroger sur ce qui dérange tant chez les prostituées. Nous faisons partie de l'ensemble de l'industrie du sexe, sauf que lorsqu'on est prostituée, on ne répond à aucune logique de productivité. Et moi, je me dis qu'on est tout à fait dans le cadre des antilibéraux, quelque part. On maintient à toute force une petite activité, dans une mesure humaine, à dimension humaine. Mais nous restons des artisanes, c'est de l'artisanat qu'on fait.
Devient pute quand elle demande de l'argent avant de faire l'amour. Comme disait Jacques Brel, une vraie pute se fait payer avant, les autres prostituées se font payer après. C'est ça qui fait de nous une pute. Et c'est demander cet argent qui fait de nous des victimes. Si l'homme me paye, on doit des comptes à la société.
Les femmes qui font le travail sont immédiatement stigmatisées. Elles appartiennent à une catégorie unique, victime. En France, la plupart refusent de témoigner à visage découvert parce qu'elles savent que ça ne s'assume pas. Il faut garder le silence. Toujours la même mécanique. On exige qu'elles soient salies. Et si elles ne filent pas droit dans le discours en venant se plaindre du mal qu'on leur a fait et raconter comment elles y ont été contraintes, on s'occupera de leur cas. On n'a pas peur qu'elles n'y survivent pas, au contraire. On a peur qu'elles viennent dire que ça n'est pas si terrifiant comme boulot. Et pas seulement parce que tout travail est dégradant, difficile et exigeant, mais aussi parce que beaucoup d'hommes ne sont jamais aussi aimables que quand ils sont avec une pute.
Je me souviens que j'ai une fois été voir dans une boîte à partous, et j'ai vu une grande bourgeoise qui était sur une chaise. Tous les hommes devaient jouir sur elle, mais comme elle n'avait pas demandé de l'argent, puisque c'était pas une pute. Elle n'était ni victime, ni soumise, ni esclave d'elle-même. Voilà. Moi, si je demande de l'argent, que je sois une petite passe tranquille, avec préservatif, je suis une victime.
Qu'elle soit pute de luxe, occasionnelle, au trottoir, vieille, jeune, douée, dominatrice, tox ou mère de famille, ne fait a priori aucune différence. Échanger un service sexuel contre de l'argent, même dans de bonnes conditions, même de son plein gré, est une atteinte à la dignité de la femme. Preuve en est, si elles avaient le choix, les prostituées ne le feraient pas. Tu parles d'une rhétorique, comme si les pileuses de chez Yves Rocher étalaient de la cire ou perçaient des points noirs par pure vocation esthétique. La plupart des gens qui travaillent s'en passeraient s'ils le pouvaient, quelle blague.
Toute la société pratique une prostitution voulue ou non voulue. Toute la société, quelle qu'elle soit, à tous les niveaux que ce soit. Tout le monde se vend d'une façon ou d'une autre. Mais seulement, là, bien sûr, là, c'est honorable, c'est noble. On peut se vendre, on peut se prostituer au niveau de son patron, au niveau de son associé, au niveau de tout le monde. Tout le monde vend, tout le monde achète, on se prostitue à tous les niveaux, mais personne ne dit rien. Mais il suffirait qu'une personne se livre à vendre son corps ou à le donner comme elle veut. À ce moment-là, ça devient le stigmatisme du siècle.
Comme maintenant, je travaille dans un hôpital, les cacas et les pipis, c'est pas le point plus attirant du métier, mais bon, c'est dans le métier. Mais si tu compares le regard de la société envers des infirmières et les putes, bon ben, c'est pas la même chose, hein. Et moi, je me pose toujours la question, c'est quoi la différence entre laver une queue ou la faire bander?
Pour moi, la prostitution pour une femme qui déteste faire ça, c'est effectivement une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un.
Le premier gros argument contre la prostitution, c'est la marchandisation des corps. Et le deuxième argument incontournable contre la prostitution, évidemment, c'est l'esclavage. Moi, ça me fait dire que c'est dommage quand même pour les esclaves économiques en général, au-delà de la prostitution, parce que lorsque des travailleurs et des travailleuses immigrées sont exploités dans des ateliers clandestins, il n'y a pas grand monde pour le dénoncer avec autant de force et sur la place publique.
Nos parents comme ta bicêtre ont livré la pauvreté. Nos frangins sont aux galères et nos compagnes sur le pavé. Et le mouflet crie misère, chers amis dans du quartier. Tu seras putain ma fille, tu seras voleur mon gars. Tu tireras la manille, ton père le fit avant toi. La prison et la chaîne pour le dernier quart d'heure sont les seuls domaines des enfants du malheur.
Je me sens pas soumis quand j'ai des rapports sexuels avec un client qui me paye. Ah non, pas du tout. Parce qu'avec ses sous, moi, je peux faire des trucs que j'adore dans ma vie. Et le type, il peut réaliser ses fantasmes qu'il peut pas dans sa vie du quotidien. À part, tout le monde est heureux. C'est où le problème ?
C'est vrai que quand je suis parfois face à des, je les appelle pas des féministes, je les appelle des sexistes, quoi, hein, parce qu'une vraie féministe, c'est pas ça. Je crois que pour finir, ça les arrange très bien, cette histoire d'esclavage. C'est tout. Et elles nous empêchent d'avoir le droit à la parole, parce qu'elles ont très peur de ce qu'on pourrait dire, évidemment. Et dès qu'une fille dit qu'elle va bien, que pour elle, c'est bien, que c'est un métier qui lui convient, alors là, on doit la tuer, quoi. On doit la tuer. Parce que qu'est-ce qu'elle pourrait dire ? Elle pourrait dire que c'est un boulot qui est pas si terrible que ça. C'est un boulot qui est chouette, qu'elle aime bien, que les hommes ici, ils sont très gentils. Et souvent, les hommes, ils sont jamais aussi gentils qu'avec une pute. Et ça, elles peuvent pas entendre. Parce que leur mari est peut-être pas si gentil que ça. Parce qu'elles ont des problèmes avec leur sexualité, parce qu'elles ont des problèmes avec leur mec, parce qu'elles savent pas gérer le fait que peut-être elles ont un côté noir qui voudrait bien faire la pute et qu'elles n'osent pas.
Ah, mais nous sommes des esclaves. On le sait, puisqu'elles nous le disent. Et que nous ne sommes pas conscientes d'être des esclaves. Enfin, des esclaves comme nous, je leur souhaite.
Moi, j'ai jamais été interrogée par une prohibitionniste. J'ai jamais été interrogée par elles. Elles m'ont jamais demandé comment j'allais. Elles vont chercher des filles qui vont dans la drogue, des tox. Elles vont chercher des filles qui travaillent dans des conditions abominables dans la rue. Effectivement, alors, elles en trouvent des femmes qui vont pas bien. C'est jamais moi qu'elles vont interroger.
On va chercher le plus sordide, on le trouve sans trop de difficultés, puisque justement, c'est la prostitution qui n'a pas les moyens de se soustraire au regard de tous. Filles privées de papier, de consentement, travaillant à l'abattage, dressées par les viols, craquées, portraits de filles perdues. Plus c'est glauque, plus l'homme se sent fort en comparaison. Plus c'est sordide, plus le peuple français se juge émancipé. Puis, partant des images inacceptables d'une prostitution pratiquée dans des conditions dégueulasses, on tire les conclusions sur le sexe tarifé dans son ensemble. C'est aussi pertinent que de parler du travail du textile en ne montrant que des enfants embauchés au noir dans des caves. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est de colporter une seule idée. Aucune femme ne doit tirer bénéfice de ses services sexuels hors le mariage. En aucun cas, elle n'est assez adulte pour décider de faire commerce de ses charmes. Elle préfère forcément faire un métier honnête, qui est jugé honnête par les instances morales, et non dégradant. Puisque le sexe pour les femmes hors l'amour, c'est toujours dégradant. Cette image précise de la prostituée, qu'on aime tant exhiber, déchue de tous ses droits, privée de son autonomie, de son pouvoir de décision, a plusieurs fonctions. Notamment, montrer aux hommes qui ont envie d'aller se faire une pute jusqu'où ils devront descendre s'ils veulent le faire. Eux aussi sont ainsi ramenés dans le mariage direction cellule familiale, tout le monde à la maison. C'est également une façon de leur rappeler que leur sexualité est forcément monstrueuse, fait des victimes, détruit des vies. Car la sexualité masculine doit rester criminalisée, dangereuse, asociale et menaçante. Ça n'est pas une vérité en soi, c'est une construction culturelle. Quand on empêche les putes de travailler dans des conditions décentes, c'est évidemment aux femmes qu'on s'en prend, mais c'est aussi la sexualité des hommes qu'on contrôle. Que tirer un coup tranquille quand ils en ont envie ne soit pas chose trop agréable et facile. Que leur sexualité reste un problème. Double contrainte ici aussi. Dans la ville, toutes les images excitent le désir, mais le soulagement doit rester problématique, culpabilisant.
Évidemment, nous avons toutes été violées, et blabla, et blabla, et blabla. Et que si toutes les femmes qui ont eu des attouchements sexuels de leur enfance ont été violées, étaient sur le trottoir, il y aurait beaucoup plus de putes qu'il en a déjà, quoi. Je veux dire, bon, ça va.
Je n'ai pas été violée ni par mon père, ni par ma mère, ni par mes frères, ni par mes oncles. Non, ni par mon grand-père, Dieu merci. Donc, je suis désolée.
On fait des études sur les putes pour ça, hein? Et là, on tombe sur les 75%, là. Mais est-ce qu'on a déjà fait cette même étude sur des secrétaires? Sur des travailleuses dans les usines? Ah non. Non, c'est seulement chez nous qu'on a fait des petites études pour prouver qu'on est malsain, il y a plein de nœuds dans notre tête qui fait que nous, on ne peut pas choisir.
Les gens se demandent comment c'est possible d'avoir 5-6 queues par jour dans le ventre ou dans la bouche ou ailleurs, mais de nouveau, on est tous différents. Peut-être que moi, j'ai résolu mes problèmes de sacralisation du sexe. Pour moi, mon sexe, il n'est pas sacré. Ce n'est pas ça vient pas du divin. Ce n'est pas fait que pour avoir des enfants ou faire l'amour par désir pour l'homme que j'aime. Moi, mon sexe, il me sert au travail et il me sert aussi dans ma vie privée. C'est le même, mais c'est pas le même. Parce qu'il n'est pas donné de la même manière. Il n'est pas donné ici, en fait. S'il est prêté.
Je faisais du lèche-vitrine, rue Larscott, c'est le cas de le dire. Et elle était en vitrine. Puis j'ai regardé un peu plus haut, j'ai vu son visage. J'ai vu son demi-sourire, j'ai vu ses yeux, tout ça, comme ça. Je suis rentré, et voilà. Alors, ce qui m'a plu, c'est sa spontanéité. Elle a eu une grande lucidité et elle a beaucoup d'expérience et c'est une femme qui se ment peu, qui ne joue pas de rôle. C'est une amie, quelqu'un que j'admire, même pour ce qu'elle fait de difficile et de peu ragoûtant. Elle est capable de le faire, elle le fait, elle rend service. Ce sera ma dernière femme, même ma dernière femme. Ça, je lui ai dit souvent, je ne l'ai jamais trompée. Elle, oui, je crois qu'elle m'a... Enfin, mais tant pis. C'est une femme qu'il faut... Elle serait trop pour moi tout seul. J'ai été voir les prostituées, elle a 18 ans déjà, oui. Pas souvent, mais c'était la seule façon. Mais n'oubliez pas, dans un petit village où j'habitais, on sortait deux fois avec une fille, il fallait la marier. Hein, il y avait le bal, mais les mères allaient avec leur fille au bal, on pouvait danser 3-4 fois. Il ne s'agit pas du tout de flirter. Hein. Il n'y avait qu'à aller à Bruxelles, à la gare du Nord. J'ai fait ça jusqu'à 28 ans. Et puis, sur un coup de tête, je me suis marié un peu trop vite. Je ne sais pas si elle se doutait vraiment. À la fin, oui, elle l'a su. Mais du moment que je ne la trompais pas, pour elle, ce n'était pas la tromper, enfin. Il y avait ça de rassurant. Elles étaient là. Je savais où aller. Je n'embêtais pas ma femme si elle avait la migraine. Je n'aurais pas pensé à prendre une maîtresse, la femme du garagiste ou la femme d'un ami, ça ne me venait pas à l'idée. Je pensais que c'était trop compliqué, peut-être un peu par peur des complications, pas par vertu.
Entre-temps, j'avais pris mon courage à deux mains, fait mon premier client à domicile. Un bonhomme, la soixantaine, qui fumait des brunes à la chaîne et parlait beaucoup pendant le sexe. Il semblait seul et je l'avais trouvé étonnamment gentil. Je sais pas si j'ai l'air gourde ou douce, ou au contraire trop imposante, ou si simplement j'ai eu de la chance, mais par la suite ça s'est confirmé. Les clients étaient plutôt affables avec moi, attentifs, tendres. Beaucoup plus que dans la vraie vie, en fait. Si mes souvenirs sont justes, et je crois qu'ils le sont, Ça n'était pas leur agressivité qui était difficile à côtoyer, ni leur mépris, ni rien de ce qu'ils aimaient, mais plutôt leur solitude, leur tristesse, leur peau blanche, leur timidité malheureuse. Ce qu'ils montraient de faille sans farce, ce qu'ils montraient de leur faiblesse. Leur vieillesse, leur envie de chair fraîche contre leur corps de vieux, leurs gros bites, petites bites, fesses flasques ou dents trop jaunes. C'était leur fragilité qui rendait le truc compliqué. Ceux qu'on pouvait mépriser ou haïr, finalement, étaient ceux avec qui on pouvait le faire en restant bien fermés. Prendre le maximum de thunes, minimum de temps, et ne plus y penser du tout après coup. Mais dans ma petite expérience, les clients étaient lourds d'humanité, de fragilité, de détresse, et ça restait ensuite collé comme un remords.
J'ai toujours eu du plaisir à retrouver des clients qui venaient une fois par semaine, ou deux fois par mois, etc. Je savais que tel jour, un tel venait. Et systématiquement, il y avait une espèce de fusion, quoi. Alors, c'était pas dans la relation sexuelle en elle-même, l'important étant que lui soit satisfait, parce que c'est quand même le but du jeu. Mais c'était cette espèce de dialogue ininterrompu d'une semaine à l'autre. On reprenait là où on avait laissé. C'est gratifiant, quoi. Je suis désolé.
C'est pas juste un client qui vient, qui paye. C'est quand même un métier où, même si ça dure que 10 minutes, un quart d'heure, moi, je veux qu'il y ait une relation. D'ailleurs, quand le client rentre, moi, je le couche et je lui interdis de directement commencer à avoir un truc sexuel. Moi, je le caresse d'abord. Je passe pas directement sur la bête. Moi, je caresse. Parce que je sais, il vient de là, il vient dehors, là. Il vient du métier, il vient de chez ma... Il vient de choses qui l'ont stressé, qui l'ont... Il vient de la frustration, il vient du stress, il vient de tout ça. Il rentre chez moi et je veux qu'il se rende compte qu'ici, c'est un espace hors convention sociale. C'est un espace où il est libre. Dans les cadres du contrat, je précise de nouveau, mais il est libre. Et je veux qu'il y ait un moment, un court moment, ça peut durer qu'une minute, où il passe de là au sexe. Et pour ça, c'est la tendresse.
Nous traînons dans les tavernes où le chrétien ne veut pas rentrer. Nous brisons les lanternes partout de l'obscurité. Car faut bien qu'on sorte à la brume pour escarper les passants. Sans tailler de fortune que pour les honnêtes gens. Tu seras putain la fille, tu seras voleur mon gars. Tu tireras la manille, papa le dit avant toi. La prison est la scène pour le dernier quart d'heure. Sont les seuls aubaines des enfants du malheur. Ne pas rentrer de ta bicêtre en livret de pauvreté. Si notre envie sont à fleurir et nos communs à la santé. Et ne vous plaît crise d'hermie, quand cela va-t-il cesser? Tu seras putain la fille, tu seras voleur mon gars. Tu tireras la manille, ton père le fit avant toi. La son prit la chaîne pour le dernier quart d'heure. Sont les seuls aux nouvelles des enfants du malheur. Alors tu seras putain la fille, tu seras voleur mon gars. Tu tireras la manille, papa le fit avant toi. Putain ma fille, tu seras voleur mon gars. Tu seras putain ma fille, tu seras voleur mon gars. Tu seras putain ma fille, tu seras voleur mon gars. Aïe 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 aïe.
C'est un rapport gratuit. Dans le sens qu'on ne se doit rien. On ne se doit rien. Il paye. On décide d'un contrat, c'est-à-dire, tu me donnes autant, je te donne ça en échange. Et il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'être puissant, il n'est pas obligé d'être fort, il n'est même pas obligé d'être poli. Il doit être respectueux, je veux dire, mais il n'est même pas obligé de me dire des gentilles choses, il peut même ne pas me parler. Tant qu'il respecte le contrat de base, il est libre, totalement libre. C'est d'ailleurs ça le problème de la société. Parce que la société, justement, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui répriment un peu de leur liberté pour que tout fonctionne.
Et la société dit aussi que c'est dans le mariage qu'on doit trouver la chose la plus épanouissante. Et un homme qui vient ici, il dit ben non. C'est pour ça aussi que la prostitution est tellement combattue par la société, parce qu'effectivement, c'est une prise de liberté par rapport aux règles que la société impose à ses membres. Mariés, famille, enfants, caravane, à la mer.
Difficile de ne pas penser que ce que les femmes respectables ne disent pas quand elles se préoccupent du sort des putes, c'est qu'au fond, elles en craignent la concurrence, déloyale, car trop adéquate et directe. Si la prostituée exerce son commerce dans des conditions décentes, les mêmes que l'esthéticienne ou la psychiatre, si son activité est débarrassée de toutes les pressions légales qu'elle connaît actuellement, la position de femme mariée devient brusquement moins attrayante. Car si le contrat prostitutionnel se banalise, le contrat marital apparaît plus clairement comme ce qu'il est. Un marché où la femme s'engage à effectuer un certain nombre de corvées, assurant le confort de l'homme à des tarifs défiant toute concurrence, notamment les tâches sexuelles.
J'ai parlé avec des hommes sur le fait « Pourquoi est-ce que tu viens chez moi ? T'es un type, t'es bien fait, t'es beau, hein ? Pourquoi est-ce que tu vas pas dans un bar, tu dragues une fille, puis hein, t'as des rapports sexuels avec ?» Puis il y a beaucoup d'hommes qui m'ont raconté la même chose, me disent « Mais pff, c'est fatigant, tu payes à boire, tu discutes, et t'es même pas sûr si tu vas avoir des rapports sexuels. » En plus, le fait de, quand même, la gêne de demander, de vraiment poser des questions. Moi, j'adore que tu me suces ou tu fais en levrette ou quoi que ce soit. C'est pas si évident avec des filles que tu rencontres comme ça dans un café ou quoi que ce soit. Mais chez nous, c'est net, c'est clair, c'est facile.
Il y a beaucoup d'hommes qui viennent chez les prostituées parce qu'ils vous respectent, vous, leurs femmes. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas vous demander, par respect pour vous. Parce que demander qu'on se fasse pisser dessus ou faire du bondage ou n'importe quoi, c'est pas facile de demander ça à sa femme, de se faire fouetter ou langer, etc. Et puis de se comporter en père de famille, en mari, etc. Donc ils n'ont pas très fiers en plus parfois de leurs fantasmes. Et je dis souvent, ils viennent chez moi parce qu'ils vous respectent. Et parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas vous demander. Moi, je suis une professionnelle, donc moi, je peux dire oui, non, parce que je n'ai pas d'enjeu émotionnel avec eux. Mais une femme ne peut pas dire non et elle peut être jugeante par rapport à son mari, ce qu'une prostituée ne va pas faire.
Un homme qui arrive avec des barésilles sous son costume et un soutien-gorge, je peux comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que dans l'être humain, il y a la dualité homme-femme, femme-homme. Que c'est pas avec sa femme qu'il va pouvoir faire ça parce qu'il va être jugé, traité d'anormal, etc. Et qu'avec une prostituée, bah c'est comme dans un confessionnal, quoi. Il peut tout dire, il peut se laisser aller et on va pas se foutre de lui.
Certains moments, avec certains hommes, je me suis posé la question, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, si finalement l'acte sexuel n'est pas un prétexte. Un prétexte à une autre forme de relation avec une femme, mais où il n'y a plus d'enjeu de séduction.
Quelquefois, il y en a qui viennent juste pour tenir la main d'une femme, en respirer l'odeur, sentir l'épaule, et puis ils sont contents. Ils se rappellent peut-être quelqu'un d'autre. Je suis dans ces cas-là un substitut d'amour.
Il y a l'acte, il y a l'argent, mais il y a aussi les récits. Il y a ce qu'ils nous confient, il y a ce qu'ils nous disent. Pas toujours très drôle pour eux. Et j'aurais tendance, comme on a tendance souvent à taper sur leur homme, sur les hommes, moi j'ai tendance à vouloir prendre leur défense. Parce que je trouve que c'est pas juste.
Putain dans l'âme, la haine.
à côté de mon travail dans la prostitution soi-disant normale, j'ai commencé à faire des clients handicapés, mais sur des tarifs soi-disant sociaux réduits.
Certaines prostituées sont d'accord d'avoir des rapports, je dis certaines prostituées, parce que c'est très difficile, d'avoir des rapports avec des personnes qui ont des problèmes de mobilité et autres, que ce soit moteur, que ce soit physique ou autre. Et moi, je trouve que ça, c'est la cerise sur le gâteau de la prostitution.
Ça m'a donné la capacité d'avoir des rapports sexuels avec des gens qui sont vraiment considérés comme des monstres par la société. S'il y a des gens qui acceptent le fait que je fais la prostitution, que je suis dans le métier, le fait que je me prostitue avec des clients handicapés, alors là, pour eux, c'est hors de limite. C'est la prostitution, point barre, ça va encore, mais les rapports sexuels avec des handicapés, c'est... Ça, c'est vraiment pervers, pathologique. Ouais.
Je suis né incapacité moteur cérébrale, ce qui veut dire que j'ai manqué d'oxygène à la naissance. Il faut bien se dire qu'à un certain âge, hein, il y a les hormones qui travaillent comme chez n'importe qui et qu'au bout d'un moment, pour quelqu'un de normal, et j'estime être quelqu'un de normal, mais pour quelqu'un de normal, c'est déjà difficile de laisser sa timidité sous son bras. Hein. Mais alors, quand on marche de travers et qu'on veut séduire une nana, on a intérêt à ramer dans le bon sens du courant parce qu'autrement, je vous garantis qu'on a vite fait de couler. Mais ce que je ressentais dans leur refus, c'était pas du mépris, mais c'était du... Tu m'intéresses pas, quoi. Pourquoi j'irais voir toi? Mais t'as vu comme t'es, toi? Au bout d'un moment, on se renferme complètement. On n'a plus envie de subir ça. On se dit, bon, bah, je reste chez moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine que j'y aille, puisque je vais encore me prendre un râteau.
Mais quand je suis arrivée chez le client, de suite, je me suis réalisée que, en fait, c'est pas évident. Mais c'était pas pour moi, mais pas évident pour le client. Ce type, il devait épargner pendant 6 mois pour avoir un orgasme. Il ne savait pas se masturber lui-même. Et en plus, il devait payer 2 heures d'escorte parce qu'il fallait le déshabiller, le mettre dans le lit avec un ascenseur, faire l'amour, puis le rhabiller, mettre dans sa chaise roulante, mettre tout en ordre et machin. Alors ça lui coûtait fortune pour avoir deux orgasmes par an.
La plupart des gens handicapés, que je connais en tout cas, ont trouvé le moyen de s'exciter eux-mêmes, quoi. De se branler, en tout cas. C'est, voilà, il faut appeler les choses par leur nom. C'est la branlette, voilà, ça fait partie de la sexualité. Point barre. Effectivement, ça fait mal des fois. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas aller violer une nana dans la rue. En tout cas, moi, je le fais pas. Ça fait pas partie de mes convenances. J'ai des barrières, j'ai des valeurs, j'ai tout. Parce que c'est encore un sujet tabou, la sexualité des gens handicapés. Et que personne, il n'y a pas un psy qui vient vous aider, parce que personne ne va voir un psy en lui disant « Écoute, trouve-moi une pute, trouve-moi une nana, parce que là, mon gars, moi, j'en peux plus, quoi. J'ai les hormones qui poussent au portillon, j'en peux plus. » Ça m'est pas arrivé d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un handicapé, non. J'aurais pu, mais ça s'est pas fait. C'est pas le fait de pas vouloir sortir avec une femme handicapée qui me dérange, parce qu'il y a des femmes handicapées qui sont très jolies et elles ont plein de qualités et tout ça. L'handicap, je vis avec depuis que je suis né, et c'est quelque chose dont j'avais envie de sortir, quoi. À un certain moment de sa vie, on se dit, bah, si on veut essayer d'avoir une sexualité, on se dit, il y a une solution, qui est ce qu'elle est, mais qui apporte une satisfaction. C'est d'aller voir des prostituées. Sur 20 contacts que j'ai pu avoir, soit téléphoniquement ou par Internet, ben, je peux vous garantir que les mémères, elles sont pas toutes disposées à venir passer quelques heures avec moi ici. Hein. Et je vous garantis que c'est même pas forcément une question d'argent. En fait, jusqu'à présent, j'étais en détresse affective. Non, c'est de l'affection que je cherchais. C'est pas forcément... J'avais pas forcément envie qu'on me tire sur le chibre, ça je peux le faire tout seul. C'est une faculté d'écoute et de sincérité. Il y en a une que j'ai trouvée il y a pas longtemps. Je l'ai contactée, je lui ai dit je viens de trouver votre site. Voilà, je suis une personne handicapée, je voudrais avoir affaire à vos services. J'aime ci, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quels sont vos tarifs? Quels sont machins? Quels sont voilà? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en votre compagnie? Elle m'a même pas posé la question de savoir quel était mon handicap. Là, je me suis dit celle-là est déjà différente des autres. Elle me comprend, elle me fait ressentir des trucs monumentaux que je n'avais jamais exprimé, que je n'avais jamais exploré, voilà, elle est indispensable à ma vie.
J'essaye à chaque client de comprendre ce qui se passe chez lui, et ça me permet d'accepter. C'est-à-dire, moi, j'ai un client, je dois faire la morte. Je dois faire semblant d'être morte. Cet homme, il doit avoir tellement peur d'une femme vivante qui pourrait lui dire non, tu n'es pas bien, non, qui pourrait rire de lui, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en plus, je dois faire la morte, mais il est très, très, très maladroit. Donc sans doute, il a eu tellement de brimades de femmes que, au moins, si je fais la morte, ben, il n'aura pas à subir ces brimades.
J'ai compris combien les femmes pouvaient être castratrices. Que ce soit les mères, les femmes, les sœurs. Et selon les éducations que certains hommes avaient reçues, eh bien comment effectivement certains hommes pouvaient devenir, entre guillemets, des masos. Et pourquoi?
Ou un homme qui veut qu'on urine sur lui. Et quand on lui demande pourquoi, une femme qui urine, elle ment pas. Une femme qui dit qu'elle jouit, elle ment. Les gens vont dire c'est un malade. C'est pas des malades, c'est des paumés. Parce que ce mec, il est foutu. Sa sexualité est foutue.
Des éducations très psychorigides sur un garçon et tout, ça peut avoir des retombées plus tard extrêmement dramatiques. Et qu'il n'y a que les prostituées qui peuvent comprendre ça, quoi. Je ne suis même pas sûr qu'un curé puisse comprendre. Et pour cause. Et en plus, à part trois paters et deux avés, il repartira les couilles pleines, le pauvre mec. Donc, faut dire la vérité.
Ce qui se passe dans notre lit, ça se passe pas juste dans notre lit, ça se passe dans toute la société. La société interfère dans ce qui se passe dans notre lit. C'est traversé par des enjeux de pouvoir énormes tout le temps, la sexualité. Le SM, ça fait partie aussi, pour moi, de cette idée-là que les rapports de pouvoir, il faut les rendre explicites, codifiés et choisis, plutôt que juste les subir et faire comme s'il n'y en avait pas, juste parce que c'est ce qu'on vit tous les jours, en fait. Dans le SM, il y a cette idée que je sais qu'il y a des rapports de pouvoir dans ma vie sexuelle, et je les érotise, et je les utilise pour mon plaisir, alors que dans la vie de tous les jours, ils sont vécus comme quelque chose de subi et de douloureux.
Une chose qui est aussi intolérable pour les gens, c'est qu'une prostituée puisse non seulement bien aimer son métier, mais alors si une prostituée peut avoir du plaisir physique dans son métier, alors là déjà qu'elle se fait payer, mais si en plus elle a bon, quoi, ça c'est insupportable pour les gens, quoi. Donc, il faut pas fantasmer, hein. Ça arrive parfois comme ça, par hasard, on se laisse aller. Il y a des hommes qui nous demandent d'avoir du plaisir. Il y a des hommes qui ont fait semblant d'avoir du plaisir. Il y a des hommes qui se rendent compte qu'on fait du semblant, mais qui s'en fichent, parce qu'ils sont dans leur bazar. Et parfois, il y a des hommes qui arrivent à nous donner du plaisir. Alors là, ça dépend. Si c'est un homme client qu'on aime bien, on peut lui montrer qu'on a eu du plaisir. Si c'est un client qu'on aime moins bien, ça nous arrive de ne pas le montrer. Ne pas lui offrir ça, parce que c'est un cadeau, malgré tout. Je suis encore fleur bleue, quand même, malgré tout.
Je ne le refoule pas, non, non, non. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas par pudeur, sans doute. Je ne le dis pas. Mais il y en a qui le sentent. Il dit, tiens, c'était mieux que la dernière fois. Tiens, aujourd'hui, je t'ai senti bien. Je dis, oui, j'étais bien.
Les réactions des hommes, c'était divisé en deux. T'avais des clients, par exemple, venaient la première fois chez moi, c'était bien, je prenais mon pied et devenaient vraiment des habitués parce que, bon, pour eux aussi, ça les donnait du plaisir, ça les excitait et tout. Et de l'autre côté, t'avais des hommes qui étaient fâchés, hein. Ouais, je te paye et là tu prends ton pied, pourquoi est-ce que je te... Il y avait même des types qui avaient le culot de me demander de rembourser l'argent. Je dis, tu vas où toi? Écoute.
Il y a un moment donné où effectivement, il y a parfois alors des hommes où effectivement... Mais bon, là il faut que ça soit des deux côtés, où on voit qu'on a... que le contrat, bah... il nous embête un peu. Et alors, alors ça devient des amoureux, quoi. Mais il n'y a plus l'argent. Et puis c'est là que les emmerdes commencent en général, quoi. Parce que là, il y a une attente. Il y a une attente d'amour, il y a une attente de respect. Et on ne veut pas sentir une putain gratuite en plus. Donc on veut être sûr que le mec vous aime vraiment et pas seulement parce que vous êtes un fantasme sexuel pour lui. Et voilà, mais... Chez moi, mes amoureux, ça a toujours été d'anciens clients. Comme ça, je passe l'étape. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma chérie?
J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Il y a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu te chopes des souhaits à Saigon. J'écris les cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points de poitiers. Et vertige de l'amour. Désir fou que rien ne chasse. Cœur transi reste sourd. Au cri du marchand de glace. T'as vu ce qui passe? Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue.
Le stigmate de pute est l'un des plus puissants facteurs de contrôle, non seulement au cœur de l'exclusion sociale des travailleuses du sexe, mais aussi en tant que menace potentielle planant sur toutes les femmes revendiquant une autonomie personnelle, économique, géographique, sexuelle. Au cœur du stigmate, il y a toujours un processus de catégorisation, de spécification. Selon les époques socio-historiques, les contextes, les points de vue idéologiques, la prostituée est toujours l'autre, radicale, la différente. Moralement dépravée, physiquement tarée, psychologiquement carencée, sexuellement anormale, juridiquement déviante ou criminelle, médicalement vecteur de contagion, personnellement mineure, socialement traumatisée par la violence et la misère, menace à l'ordre public. Assignée à une identité, la prostituée ne peut être, dans cette optique, qu'une femme atteinte. La présenter de façon pompeuse comme figure emblématique de l'exploitation capitaliste, de l'appropriation patriarcale, de la violence sexuelle, comme paroxysme du non-pouvoir des femmes sur elles-mêmes, comme le font les abolitionnistes, participe à cette même fonction politique insidieuse de division entre les femmes, de stigmatisation des travailleuses du sexe, de dépouillement de leur autonomie de jugement et capacité d'agir. On ne dira jamais assez tout l'effet dévastateur de la victimisation des femmes. L'assujettissement dans lequel cette position nous campe et contribue à nous maintenir. Les travailleuses du sexe ne peuvent devenir véritables sujets de droit parce qu'en tant que victimes, elles sont minorisées, c'est-à-dire considérées comme mineures. Ce statut implique une vulnérabilité et une dépendance vis-à-vis de la bienveillance des autres ou encore de l'État. Être mineure, c'est être sans autonomie de jugement, le statut juridique de la femme mariée jadis. Sans capacité de décider, donc sans pouvoir, sans autorité, dans le même état d'irresponsabilité que l'enfant, à sauver coûte que coûte. Cette perception vide la personne de son pouvoir d'action sur son environnement. Voilà une considération sans issue, parfaitement offensante et dévastatrice, que perpétue la position abolitionniste sur la prostitution. Cette vision incarne la prostituée en mineur, sans dessein, comme le veut l'expression populaire, dont la parole ne peut être entendue, et qui n'a surtout aucune crédibilité. Jusqu'à plus soif, on ne serine des phrases comme « Une femme n'entrerait pas dans un pareil métier », mode de vie ou état, si elle n'y était contrainte par la violence ou la pauvreté absolue ou le manque d'éducation. Ou encore, la prostitution est synonyme d'esclavage, d'atteinte aux droits et à la dignité humaine. Il n'y a jamais de libre consentement à la prostitution. Une façon d'amorcer un décentrement du regard dominant chargé de préjugés, de moralisme, de tout acabit, d'idéologie et d'émotions indignées, et qui voit et traite la prostitution et les prostituées comme vecteurs, au choix, de déchéance morale, de contagion socio-sanitaire, de nuisance publique, de trafic des femmes, c'est d'envisager la prostitution sous l'angle du travail et les prostituées comme des travailleuses du sexe, des femmes vendant des services sexuels.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas dans la rue, faire les 100 pas dans la rue, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement on a des corps, non seulement on a des corps, des ailes de perdrix mais encore, des ailes de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'on use de grôle, parole, parole, c'est fou ce qu'on use de grôle. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant bien qu'on les cajole, parole, parole. Faut pourtant bien qu'on les cajole. Qu'on leur fasse la courte échelle, qu'on leur fasse la courte échelle pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous croyez pas qu'on les vole, parole, parole. Les sous croyez pas qu'on les vole. On est méprisé du public, on est méprisé du public, on est bousculé par les flics, on est bousculé par les flics, et menacé de la vérole, parole, parole, et menacé de la vérole. Bien que toute la vie on fasse l'amour, bien que toute la vie on fasse l'amour, qu'on se marie 20 fois par jour, qu'on se marie 20 fois par jour, là non c'est jamais pour notre fiole, parole, parole, là non c'est jamais pour notre fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole.
Ces dernières années, des thématiques féministes ont été instrumentalisées afin de défendre des politiques racistes, notamment en 2003, lors des votes de la loi contre le port d'un signe religieux dans les lieux publics et celle pour la sécurité intérieure qui pénalise entre autres le racolage passif. Ces deux lois ont été défendues par des arguments féministes et parfois même par des féministes. Il s'agissait de combattre le voile en tant que symbole d'oppression sexiste et la traite des femmes dans la prostitution. Ces lois ont eu en réalité pour conséquence de s'attaquer à des femmes et plus précisément des femmes minoritaires souvent issues de l'immigration, des musulmanes et des prostituées, dont une majorité de migrantes. Tous les discours sur la traite n'ont eu jusqu'à présent que trois conséquences pour les travailleuses du sexe. Davantage de contrôles migratoires à l'encontre des femmes et de leur expulsion, davantage de répression contre les travailleuses du sexe exerçant dans la rue et les espaces publics, délégitimiser les mouvements de travailleuses du sexe comme non représentatifs car minoritaires face au problème de la traite. Les discours sur la traite trouvent un large écho dans les médias et la population qui, en effet, ne saurait s'émouvoir de l'esclavage et de l'abus sexuel de tant de femmes et d'enfants. La majorité des groupes féministes s'en font d'ailleurs les relais auprès des partis et institutions politiques, en particulier de gauche. D'autres féministes ont heureusement, elles, travaillé avec des travailleuses du sexe et des migrantes telles Gayle Peterson ou Françoise Guillemot en France. Or, quand on lit leurs travaux, on peut ensuite se rendre compte que ces discours sur la traite s'élaborent à partir d'inventions, de mensonges, de manipulations et de confusions volontaires de chiffres. L'Union européenne estime qu'il y aurait 3 millions de migrants illégaux en Europe. Europol parle de 500 000 entrées illégales par an sur le continent, chiffre repris par Eurostat pour estimer celui des femmes victimes de la traite. Tous les rapports de seconde main et mouvements abolitionnistes reprennent en cœur ce chiffre de 500 000 victimes de la traite par an en Europe sans se préoccuper comme d'habitude de son origine. Or, il est bien évident que tous les migrants irréguliers ne sont pas des femmes, ni encore moins tous des femmes prostituées victimes de la traite. Bien sûr, tous ces chiffres sont en fait invérifiables car la prostitution et l'émigration des femmes travailleuses du sexe sont illégales. C'est néanmoins cette illégalité qui est la première responsable de ce qu'on appelle la traite, ou que nous préférerons nommer les restrictions des libertés migratoires de femmes. Car sous le terme de traite, c'est en fait toutes les femmes migrantes et leurs enfants qui sont ainsi désignées. Considérant que la prostitution ne peut être un choix libre, les mouvements abolitionnistes font de toutes les femmes prostituées migrantes une victime de la traite. Le fait d'aller chercher un passeur pour venir travailler en tant que prostituée dans les pays riches n'est pas perçu comme un acte de prise de pouvoir économique en comparaison de la situation du pays de départ, parfois sexiste ou dangereux. S'agissant de la France et de la loi pour la sécurité intérieure, celle-ci pénalise le racolage passif de 3 750 euros d'amende et de 2 mois de prison, ainsi que l'expulsion des travailleuses du sexe étrangère. Cette loi prévoit un volet de protection des victimes de trafic si elles dénoncent un proxénète. C'est ainsi la première fois qu'une loi en France conditionne l'abstention d'un droit à un service de délation. La personne ayant dénoncé un proxénète se verra obtenir le plus souvent une autorisation provisoire de séjour de 3 mois, renouvelable en principe, mais rarement dans les faits. Cette APS est conditionnée également au fait de devoir arrêter la prostitution sans qu'elle ne donne le droit à un permis de travail. Cela revient à priver la personne de toute possibilité de revenu et de celle-ci se trouve contrainte de continuer de travailler dans la prostitution. Il suffit ensuite pour la police de l'arrêter de nouveau pour racolage et pour la justice de procéder à son expulsion. En général, ce ne sont pas les violences qui sont condamnées, mais les migrations, les passages des frontières, le transport et l'aide au passage des frontières. Les femmes n'ont aucun droit pour se défendre contre ces violences et l'exploitation car leur statut et leur activité sont clandestines.
Pour lutter efficacement contre les violences et contraintes que subissent les femmes migrantes et pour que la prostitution reste un choix, Nous exigeons la régularisation de tous les sans-papiers, l'ajout des mentions de sexe, d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans la Convention de Genève de 1951, accordant ainsi l'asile aux femmes et transpédéguines. Un permis de travail pour tous les documents accordant le droit au séjour, titre de séjour, APS, récépissé de demande d'asile, etc. Que les pays qui réglementent le travail du sexe cessent d'exclure les migrantes sous le faux prétexte qu'elles seraient, elles, des victimes de la traite et qu'ils accordent ainsi les mêmes droits aux travailleuses migrantes qu'aux nationales.
Extrait du site lesputes.org.
Sick and tired of having so many hearts.